Pourquoi je me fais baptiser ? J'ai presque voulu rajouter ou pas. Éléanor vient de se faire baptiser. Nous en sommes témoins. Mais de quel baptême parlons-nous ? En préparant cette prédication, j'ai consulté Internet, visionné des vidéos, mais surtout je me suis appuyé sur l'ouvrage d'Alfred Kuhn, qui s'appelle tout simplement Le Baptême, qui est d'ailleurs en bibliothèque. Si ça vous dit, et je vous le recommande fortement, vous allez voir Lucien, il se fera un plaisir de vous le prêter. Et de quel baptême parlons-nous ce matin ? Est-ce que c'est du baptême de l'air ? Du baptême d'une cloche, d'un navire, le baptême du feu, le baptême du sang, et je ne sais quoi encore ? Je ne vous parlerai pas non plus de toutes les significations et des pratiques dans le monde chrétien. J'étais parti simplement avec l'intention de vous présenter ce qui est dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Rappelez que toutes les religions du monde ont toujours associé l'eau au rite de purification de l'intérieur, de l'âme et du corps. Que les Juifs avaient de nombreuses ablutions rituelles, que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain par immersion, et rappelez que Jésus a demandé aux apôtres de baptiser ses disciples et de citer les textes du Nouveau Testament. C'était assez simple, en somme. Mais voilà que j'ai été interpellé par le résultat du questionnaire concernant la recherche du deuxième pasteur. Quel rapport allez-vous me dire ? Patience, on va y venir. Je passe rapidement sur le baptême de Jean, qui était un baptême de repentance, dans l'esprit d'ablution, de purification rituelle, avec toutefois une visée messianique. Lorsqu'il déclare, par exemple, dans Matthieu 3, 11, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême, donc, a été ordonné par Jésus. Et concernant ce baptême chrétien, nous le prendrons comme norme unique et suffisante, celle de la parole de Dieu. Une centaine de passages, selon Alfred Kuhn, je n'ai pas vérifié, s'y rapportent ou y font allusion. Ils sont liés à la conversion et à la sanctification. Jésus n'a laissé que deux actes matériels symboliques, le baptême et la scène. Jésus lui-même n'a-t-il pas souligné l'importance du baptême en disant à ses disciples, peu avant d'être enlevé au ciel, dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et dans Matthieu 28, 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus lui-même, d'ailleurs, s'est fait baptiser. Les quatre évangiles le rapportent. Jésus reconnaît que le baptême correspond à la volonté de Dieu et il désire s'y soumettre. Il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste, a-t-il répondu à Jean qui ne voulait pas le baptiser. C'est dans Matthieu 3, verset 15. Il était le seul homme qui aurait pu s'en dispenser. En s'y soumettant, il nous donne un magnifique exemple d'obéissance. Attention toutefois de ne pas surestimer le baptême. Matthieu Marc 16:16, nous l'avons déjà cité, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas dit, par exemple, celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Partout dans le Nouveau Testament, le salut est lié à la repentance et à la conversion. À la question qui lui était posée par ses disciples, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, donc, amène un enfant. Et puis après, donc, dans Matthieu 18, verset 3, il leur dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Là encore, il ne parle pas du baptême. Dans Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, nous amène à la repentance et nous fait naître de nouveau, comme Jésus le révèle à Nicodème. Dans Acte 3, Pierre, après avoir guéri un boiteux, au nom de Jésus-Christ, s'adresse au peuple, leur rappelant au verset 15 qu'ils ont fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, bien que par ignorance. Il précise que c'est la foi en Jésus qui a donné une entière guérison à cet homme. Et il leur dit au verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Là non plus, il ne parle pas de baptême. À Corneille, ce même Pierre dira dans Acte 10, 43, « Quiconque croira en lui recevra le pardon des péchés par son nom. » Il n'aurait pas omis d'y associer le baptême s'il était nécessaire au pardon des péchés. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Deux exemples, le brigand sur la croix qui fut sauvé sans être baptisé et Corneille qui reçut le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Le baptême seul, sans repentance et sans adhésion à l'œuvre du Christ, n'a aucune valeur. Le baptême se pratique par immersion. Colossiens 2, verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. L'immersion a donc certainement été choisie parce qu'elle représente la manière la plus saisissante de l'ensevelissement. Quelques exemples. Jean 3, verset 23. Jean aussi baptisé à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on s'y rendait pour être baptisé. Dans Matthieu 3, verset 16, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Le baptême dans les évangiles. Après cela, c'est-à-dire après le discours que Jésus fait à Nicodème, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Déjà cité aussi, Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. Jean 4, versets 1 et 2. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui le faisaient. Maintenant, le baptême dans le livre des Actes. Le livre des Actes nous raconte comment les disciples de Jésus ont mis en pratique les ordres de leur maître. Souvenez-vous, dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus leur dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ils ont donc d'abord fait des disciples par leur prédication, par leur voyage missionnaire et par les entretiens individuels avec les Juifs et les non-Juifs. Puis, ils ont baptisé ces nouveaux disciples, puis les ont enseignés à garder leur enseignement et à le mettre en pratique. Le jour de la Pentecôte, les apôtres ont accompli pour la première fois les commandements de leur maître. Et donc, vous vous souvenez de l'épisode, il se passe tout un tas de choses extraordinaires, les gens sont étonnés, et Pierre fait un discours. Et après ce discours, pose la question, « Frères, que ferons-nous ?» Et dans Actes 2, 38, Pierre leur répond, « Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Donc ils crurent et se furent baptisés. Et la foule entière, quand Jésus donc est allé en Samarie, et puis donc à Philippe par la suite, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et dans Actes 8, 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendent dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Notons que le baptême ici n'est possible que parce que l'eunuque déclare sa foi en Jésus. C'est aussi le cas de beaucoup d'autres. Citons l'apôtre Paul lui-même, Corneille et les siens, Lydie et sa maison, le geôlier de Philippe et sa maison, les disciples de Corinthe avec Crispus. Ils crurent et se firent baptiser. Ainsi, donc, dans toutes ces situations, nous retrouvons cette logique. Ce sont des gens adultes qui découvrent le message de l'Évangile et qui croient d'abord et se font baptiser ensuite, par immersion, et se rattachent à l'Église. Dans Actes 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alfred Kuhn relève que l'apôtre Paul nous présente constamment l'Église locale sous l'image d'un corps. On voit difficilement comment un chrétien pourrait être membre de ce corps sans y être intégré. Le corps a besoin de chaque membre, autant que les membres ont besoin de lui. Autre cas, Actes 19, 3, 5. Paul rencontre à Éphèse, alors Apollos était encore à Corinthe, il rencontre des disciples, puis il leur pose la question, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» On n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais de quel baptême, donc, avez-vous reçu ? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, le Messie. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je remarque qu'ils n'ont pas discuté, en argumentant qu'ils avaient déjà été baptisés. Et voilà qu'on en arrive à mon interpellation. De quoi s'agit-il ? Donc nous avons proposé un questionnaire à chacun pour se déterminer. Un questionnaire, nous avons reçu 74 réponses, à peu près la moitié de ce qui était possible, 47 de membres et 27 de non-membres, soit plus d'un tiers des réponses. Et si j'exclus les personnes qui nous ont rejoints récemment, ça fait quand même une belle proportion. Alors c'est vrai que cela m'interpelle. Pourquoi ne pas être membre alors que l'on a accepté Christ dans sa vie, qu'on aime l'Église, qu'on s'y intéresse, la preuve, 27 réponses. Mais ça ne sera pas mon propos ce matin. Ce matin, nous parlons du baptême. Alors, une des raisons pour laquelle on n'est pas membre de l'Église, c'est qu'on n'est pas baptisé, ou on ne veut pas se faire baptiser. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi ? Que faut-il comprendre ? J'aimerais ce matin nous faire réfléchir, nous faire progresser, nous aider à grandir vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Et je veux le faire dans un état d'esprit de l'exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15, dire la vérité dans l'amour, en respectant la sensibilité de chacun. Première précision pour les amis qui nous découvrent. Pourquoi une distinction entre membres et non-membres ? Notre Église existe parce qu'elle est officiellement enregistrée à la préfecture comme association cultuelle dans le cadre de la loi 1905. Trois documents définissent son identité. Ses statuts, son règlement intérieur et sa confession de foi. Un extrait de nos statuts. L'Église évangélique baptiste fut fondée à Nîmes en 1895 sous l'égide de la loi du 30 juin 81. Elle fonctionna ensuite comme association libre régie par la loi du 1er juillet 1901 et elle décida le 2 janvier 1943 de constituer une association cultuelle sous le statut de la loi du 9 décembre 1905. Sans ce statut, nous n'aurions pas pu construire cette église, ce bâtiment et bien d'autres choses. Pour maintenir son existence, l'association doit être constituée d'un nombre minimum de membres. Donc, pas de membres, pas d'église. Le mois dernier, j'avais présenté très rapidement notre église en vous indiquant que vous pouviez en savoir beaucoup plus en visitant notre site. Notre site, je vous rappelle, c'est eebnim.org. Si vous l'avez fait, vous avez donc lu que nous étions une église protestante, évangélique, baptiste, parce que nous pratiquions le baptême des adultes par immersion sur leur profession de foi. Nous sommes régis par des statuts, mais aussi par un règlement intérieur et une confession de foi. Et dans ce règlement intérieur, il est précisé que l'Église est un lieu d'accueil pour tous, mais ses membres ne peuvent être que des personnes professant une foi personnelle en Jésus-Christ et qui ont rendu témoignage par le baptême. La base doctrinale sur laquelle s'édifie la communion de l'Église est exprimée par la confession de foi de l'Association évangélique d'Église baptiste de langue française. Donc, il y a nécessité d'abord d'une demande, d'une acceptation et puis d'un accueil en Assemblée générale. Et donc cette confession de foi dit au paragraphe 9, ben c'est bien de temps en temps de reciter la confession de foi, on ne le fait pas souvent. Donc juste un petit extrait. Nous croyons que Jésus-Christ a institué par son Église deux actes symboliques, le baptême et la scène. Les églises locales veillent à la bonne compréhension de leur sens et en assurent une pratique digne de ce qu'elles représentent. Nous croyons que le baptême est un acte unique par lequel le croyant témoigne publiquement de son adhésion à la foi chrétienne. L'immersion est la forme biblique du baptême. Par ce symbole, divinement choisi de la purification des péchés, le croyant exprime son union avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ainsi que son engagement avec son Sauveur et envers ses frères. Le baptême précède logiquement l'entrée dans l'Église locale. C'est pas très souvent qu'on a l'occasion de parler de ces documents, des statuts, du règlement intérieur, et puis de la confession de foi, mais il m'a semblé qu'aujourd'hui, c'était l'occasion ou jamais. Mais parlons d'abord de la valeur du baptême. Je reviens à mon interpellation, donc au vu des réponses du questionnaire. Pourquoi tant de membres, alors que vous connaissant, pour la plupart d'entre vous, je sais que vous aimez le Seigneur et notre Église. Pourquoi quelques-uns d'entre vous refusez-vous de vous faire baptiser? C'est une vraie question pour moi. À quoi sert le baptême? Que nous apporte-t-il? Qu'ajoute-t-il à ma conversion? Est-il utile ou même nécessaire de se faire baptiser quand on est nouveau? Ce qui importe, n'est-ce pas la réalité spirituelle intérieure, le baptême de l'Esprit, que peut ajouter un acte matériel à ma conversion? Voilà peut-être quelques-unes des questions que vous vous posez. Et Alfred Kuhn dit que le baptême est un engagement, l'expression extérieure et visible d'une expérience intérieure, une occasion de confesser sa foi, une prédication, l'occasion d'un examen, une aide pour la sanctification et un acte d'obéissance. Je n'ai pas le temps de reprendre chaque point. Je vous rappelle que le livre est disponible à la bibliothèque. Concernant le point 1, l'engagement. Michael, au secours. Elle veut plus. Ce que dit Pierre dans 1 Pierre 3, versets 20 et 21. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau, il parle de l'arche de Noé, et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Par la foi, on s'engage à suivre le Christ. Et le baptême est comme une signature officielle de cet engagement, dit Alfred Kuhn. Concernant les points 2 et 3, c'est-à-dire sur l'expression extérieure et visible d'une expérience intérieure et l'occasion de confesser sa foi. Matthieu 10, verset 32, « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. » C'est Jésus, donc, qui parle. Puis dans Romains 10, l'apôtre Paul dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur qu'on croit et qu'on parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut selon l'Écriture. Le témoignage oral manifeste l'action du Saint-Esprit en nous et nous engage vis-à-vis du Christ. On dit « Je veux le suivre » et l'Église en est témoin. Enfin, concernant le point 7 sur l'obéissance. « À Fatkun, en fait, il dit, bah, le plus souvent, c'est pas parce qu'on désobéit, mais on refuse, on discute, on objecte. Il est temps de conclure. Nous avons vu plusieurs choses. Peut-être j'ai bousculé certains d'entre vous. Et si j'ai été maladroit, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mon propos était de vous apporter les éléments basés sur la parole de Dieu pour vous faire progresser. Rappelons-nous que Jésus n'a laissé que deux symboles, le baptême et la scène. Et rappelons-nous que c'est un commandement du Christ et que Jésus a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». C'est dans Jean 14, verset 21. A-t-on une bonne raison pour ne pas se faire baptiser ? Oui, si on ne croit pas. Si on ne croit pas à l'œuvre rédemptrice de Jésus, le Fils de Dieu. Sinon, comme disait l'eunuque à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Que Dieu nous aide à lui être fidèle et à l'aimer toujours plus. Amen.